Quand il y a la croissance, c'est très bien, on peut céder, de toute façon, la dette, grosso modo, se stabilise. Bah, maintenant, ça ne marche plus. Donc, c'est vraiment très dur. Il y aura, des gagnants et des perdants, en tout cas économiquement parlant. Alors, donc, si on continue à penser qu'on aura la croissance et à faire de l'économie la pierre angulaire de la politique et des choix collectifs, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire que vous mettez à la place centrale quelque chose qui va faire des gagnants et des perdants, et vous n'avez pas d'autres moyens de compenser. Ça nous oblige à penser d'autres critères de choix collectifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de la répartition de la valeur économique et qu'il ne faut pas en créer suffisamment. Mais ça veut surtout dire qu'il va falloir d'autres choses pour négocier, pour choisir notre direction. Et donc c'est la politique qui revient à la table de l'histoire. D'une certaine manière, la croissance s'alignait un peu avec un sens politique assez marqué à la sortie de la guerre. Elle l'a perdue. Nous, on a préféré garder la croissance parce que c'était plus facile. On a mis la politique sous le tapis. La croissance s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Et le problème, c'est que si on ne prend pas conscience de ça, c'est déjà, on va rester impuissant à croître parce que, comme on l'a vu, le réservoir de volonté mobilisable n'est pas suffisant face, en tout cas nous, c'est ce qu'on pense, pas suffisant face aux limites qui s'y opposent. Mais en plus d'être impuissant à croître, on va être impuissant à résoudre les problèmes posés par la croissance et les problèmes posés par autre chose. Parce que si vous restez obsédé avec quelque chose qui ne marche pas, vous avez toutes les chances de ne pas faire marcher ce qui vous intéresse. Donc on se trouve dans cette impasse. Alors, j'en ai maintenant fini pour le propos qu'on a tenu dans l'article. Alors, je vois qu'il me reste une vingtaine de minutes. Donc, je vais vous faire part de quelques réflexions qui vont dans le prolongement de notre propos. Alors, pour le coup, elles sont plutôt plus personnelles. Donc, là encore, il ne faut pas blâmer Jérôme pour toutes ces bêtises. C'est de mon cru. Et c'est beaucoup plus brouillon que ce qu'on a pu formaliser dans l'article. Donc ça part forcément de la conclusion. Comment on fait sans croissance? Ayant fait un petit peu d'économie, c'est une approche peut-être un petit peu plus économique et un petit peu moins politique ou philosophique que celle qu'on a eue dans l'article. Mais ça part de l'idée quand même que l'une des tâches, si on veut réinventer les choix collectifs et les poser clairement, c'est bêtement de savoir comment on abandonne celui qu'on a fait depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire comment on s'adapte à la fin de la croissance. Comment on fait? Parce que c'est... Là, si j'appuie sur le bouton croissance zéro, j'ai pas besoin d'appuyer, c'est déjà là, mais si on continue croissance zéro, tout s'écroule. Ça marche pas. Les retraites, ça marche pas. On est un peu embêté. Faut pas croire que c'est génial la fin de la croissance. Quoi. Effectivement, c'est plus très souhaitable de continuer, et ça marche pas très bien. Mais l'alternative, il faut la construire parce qu'on n'y est pas prêt. Et jusqu'à présent, justement, c'est un défaut que j'ai personnellement trouvé dans la littérature, c'est très subjectif comme avis, mais c'est que la littérature qui s'intéresse au monde sans la croissance décrit d'abord beaucoup le monde sans la croissance comme souhaitable, mais pas comme fatal. C'est-à-dire que c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le méchant parti de la croissance qui pourrait continuer. Bon, mon avis, c'est que non, il ne peut pas continuer. Donc, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et c'est peut-être plus compliqué. Et résultat de l'aperçu que j'ai eu de cette littérature, là encore, je n'ai pas tout exploré, mais c'est un propos qui se cantonne souvent à des formules philosophiques, et une bonne volonté très louable, mais souvent un peu incantatoire. Et il y a quand même un léger trou dans la raquette, qui est concrètement, vraiment, comment ça marche un monde économique sans croissance. Il y a très peu de gens qui rentrent dans les détails. Il y a des grands principes qui sont sympathiques, mais mécaniquement, comment ça marche. Et donc, bon, mon idée, c'était d'essayer d'envisager quelques conséquences, justement, mécaniques de la fin de la croissance, et mécaniques, mais aussi un peu normatives, c'est que très vite, on s'aperçoit que pour envisager ces conséquences, il faut se fixer d'autres objectifs. Donc il faut rendre très clair les nouveaux objectifs qu'on veut introduire dans l'économie pour savoir comment on s'en sort. Bon, il y a un objectif qui me paraît naturel, c'est l'emploi. De toute façon, si on regarde la préoccupation non seulement des dirigeants politiques, mais des sociétés, certes, il y a l'incantation autour de la croissance, mais ce qui cache profondément, c'est que la croissance, ils pensent que c'est l'emploi. Alors, ils pensent, ils n'ont pas tout à fait tort, mais ils ont quand même un peu tort déjà, parce qu'ils le savent, il faut grosso modo 1,5 point de croissance pour commencer à voir le chômage reculer. C'est les stats qu'on donne pour la France, c'est à peu près partout pareil. Donc ça veut dire que c'est même pas la croissance qu'il faut, c'est beaucoup de croissance. On en est encore plus loin. Mais peut-être qu'il faudrait retourner la question. Si c'est vraiment l'emploi qu'on veut, et ça semble être ça en fait, on veut pas la désespérance du chômage. Bah, comment on fait pour avoir de l'emploi sans croissance? Alors bah, voilà, la littérature qui s'intéresse va dire bon bah il faut diminuer la productivité du travail. C'est très simple. Un coup de baguette magique, vous dites autant, bah, faites moins bien. Allez-y. Donc, des entreprises concurrentes, faites moins bien. Et tous les concurrents vont faire moins bien d'un coup. Magique. Et c'est vrai, hein, si la productivité croît, comme elle le fait encore, et comme elle a peut-être des potentialités de le faire encore via la transformation numérique ou robotique, du moins c'est une possibilité, on a l'impression que la croissance est nécessaire pour préserver l'emploi. Et d'une certaine manière, mécaniquement, c'est vrai. Mais la baisse de la productivité, ça ne se décrète pas. Et c'est je pense, le grand paradoxe qu'il faudrait essayer de résoudre. Alors, bon, il y a, si on accepte la transformation numérique, qui est encore ambiguë, il y a quand même un ralentissement des gains de productivité. Hein, ça, c'est bien documenté. Et en particulier parce que nos économies sont des économies de services maintenant, et mesurer la productivité des services, c'est pas très facile. Donc, à la limite, les économistes qui optimistes, et ils ont peut-être pas tort d'une certaine manière, disent si, il y a des gains de productivité, mais on peut pas les compter, c'est juste que la qualité des services s'améliore. C'est-à-dire que vous payez, vous allez voir votre banquier, vous allez voir toujours autant de temps qu'avant, vous payez toujours autant qu'avant, sauf que c'est mieux qu'avant. Donc d'une certaine manière, la richesse a augmenté, mais ça sera mesuré nulle part. C'est une forme de croissance. Mais c'est plus du tout la croissance au sens du PIB, ça veut dire quand même qu'on est obligé d'affecter une valeur à la qualité des choses. Donc on sort quand même beaucoup de la logique dans laquelle on est encore prisonnier. Alors, bon, c'est une première piste intéressante déjà, c'est que il y a là peut-être pas mal de choses à essayer de mesurer, c'est tous ces changements qui passent inaperçus, d'amélioration des choses sans gain de... Donc c'est un gain implicite de productivité. C'est-à-dire que finalement, si on se dit on essaye d'améliorer beaucoup la qualité, on essaye de mesurer, les gens restent dans l'emploi, mais ils font juste... Les choses sont mieux. Il n'y en a pas plus, c'est juste mieux. Bon, en revanche, ça marche pour les services. Mais il y a quand même des secteurs où on continue à gagner de la productivité, hein, les secteurs industriels. Et là, c'est quand même assez mal connaître les entreprises, et je pense même d'une certaine manière l'homme moderne que de penser qu'on va s'arrêter. Il y a eu tout au long de l'histoire des mouvements ludistes, on cassait les machines parce que ça détruisait de l'emploi. Mais honnêtement, c'est quand même un peu problématique, philosophiquement parlant, de se dire on sait faire mieux, plus vite, en employant moins de gens, mais on va pas le faire. Pourquoi ? C'est un peu comme employer des gens à creuser des trous et à les reboucher, quoi. Ça pose problème. Et surtout, ça pose problème à se décréter, parce que très vite, il y en a qui vont dire « moi, je creuse pas les trous et je les rebouche pas, et résultat, je suis moins cher que les autres, et c'est moi qui prends les marchés. » C'est quand même un peu embêtant. Et donc, finalement... Bon, dans le schéma traditionnel, la hausse de productivité, c'est bien, parce que ça fait baisser les prix, et puis à la fin, tout croît. De toute façon, quand tout croît, ça marche, forcément. Et la croissance est sous-entendue dans ce modèle-là. Mais alors, comment on peut faire ? C'est-à-dire qu'il faut faire baisser la productivité générale, mais on voit pas trop. Alors, la réponse un peu naturelle qui me semble qu'on doit trouver, c'est de dire, il y a des secteurs qui gagnent en productivité, ceux-là, il faut qu'ils prennent une place de plus en plus faible dans l'économie. Et au fur et à mesure que des secteurs libèrent de l'emploi, il faut réutiliser ces emplois. Donc, c'est-à-dire les détourner vers des secteurs à très faible gain de productivité, à fort intensité en travail, Et bon, ils sont connus, hein, ces secteurs, ce sont les services à la personne. Et pour le coup, on en a besoin, on en a envie. Ça fait partie de cette activité sociale, spéculaire de l'humanité que de se rendre de plus en plus de services les uns les autres. Donc, c'est tous les secteurs, donc services à la personne, économie sociale, l'économie semi-professionnelle, l'artisanat aussi. Donc, il y a une forme de pompe un peu antinaturelle qu'il faut réussir à mettre en place pour reverser les gains des secteurs où on s'améliore, où on fait toujours mieux, et qui, d'une certaine manière, sont limités en volume. Ils ne peuvent plus croître. Ils sont de plus en plus efficaces, mais ils croissent plus. Et injecter ces gains dans des secteurs, a priori, pas très rentables et peu productifs. Ouais, donc ça, il faut une pompe. Pour que les gens se mettent à faire des choses pas rentables, ça ne se fait pas tout seul. Alors, bon, je m'inscris implicitement dans le cadre d'une économie de marché, c'est vrai. Disons que si on veut concrètement avancer, pour l'instant, c'est quand même le plus simple. On peut penser qu'il y aura des transformations plus grandes après. J'ai l'impression que si on veut être pratique, il vaut mieux partir de là. Alors, maintenant qu'on s'est dit qu'il fallait cette pompe, comment on la fabrique ? Et là, il y a une idée assez générale, maintenant très, très diffuse, hein, très défendue, c'est de se dire, on veut que employer plus de gens. C'est-à-dire, finalement, c'est pas qu'on dévalorise le travail, mais c'est de dire que employer quelqu'un, ça ne devrait pas être quelque chose de cher, puisque c'est bien pour la société. C'est-à-dire, on est content qu'il y ait des emplois. En revanche, il y a quelque chose qu'on ne veut pas. C'est en particulier les dégradations écologiques et le changement climatique. Il faut faire une pompe pour substituer l'un à l'autre. Ça s'appelle des taxes. Ou tous les mécanismes qu'on peut envisager, mais c'est baisser le prix de ce qui est abondant, le travail, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, et c'est une valeur positive pour la société, et monter le prix de ce qui est rare, c'est-à-dire les ressources, ou plutôt les poubelles, si on prend la dénomination de Pierre-Noël Giraud. Alors, c'est le principe qu'on appelle souvent le double dividende, que défendent beaucoup de gens très raisonnables. Bon, double dividende, c'est un peu trompeur, mais c'est l'idée que vous mettez une grosse taxe sur le carbone, vous utilisez le produit de la taxe pour baisser les charges sociales sur le travail. Comme ça, finalement, c'est plus facile d'embaucher, donc il y a plus d'emplois et vous polluez moins. Donc, vous avez gagné sur le front de l'emploi et sur le front de l'environnement. Là où ça s'arrête assez vite, c'est qu'il y a un problème de substituabilité assez imparfaite, c'est-à-dire qu'on n'échange pas du carbone contre un emploi. Ça se saurait. Il y a des endroits où ça marche, il y a des endroits où c'est pas vrai du tout. Et les énergies renouvelables, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire, c'est pas riche en emplois, les énergies renouvelables. On soit bien clair. Hein. C'est au contraire, même, c'est plutôt plus capitalistique que les autres formes d'énergie. C'est-à-dire que dans une centrale nucléaire, il faut plus de gens pour la faire tourner qu'une éolienne. Et encore pire pour les centrales à gaz ou à charbon. Donc, bon, c'était juste un exemple, mais pour dire que c'est malheureusement, ça marche pas. Bien, donc il y a certaines productions qui consommeront jamais beaucoup de travail. Et justement, parce que ça peut pas marcher juste par ce petit ressort qui par ailleurs fait son chemin quand même dans certains programmes politiques et même dans certaines mesures. Hein. La baisse des charges sur les emplois, ça fait déjà 20 ans qu'on y est, dans tous les pays occidentaux. Les taxes sur le carbone ou sur l'environnement, on y va aussi. Donc, c'est quand même qu'on a compris. Un petit peu. Mais il faut autre chose, et c'est celle du travail peu qualifié. C'est que c'est vrai que, pour le coup, c'est quelque chose qu'on assume peut-être pas assez. On dit, pour qu'il y ait plus d'emplois, il faut qu'ils soient qualifiés, on va avoir que des emplois qualifiés. Mais c'est très dur. Il y aura toujours des gens peu qualifiés. Et effectivement, c'est pas très rentable de faire travailler des gens peu qualifiés aujourd'hui, en Europe occidentale. Alors ça veut dire un truc, si vous montez le prix de l'énergie, si vous baissez les salaires et les charges autour du travail peu qualifié, ça veut quand même dire qu'il y a une baisse réelle du pouvoir d'achat, comme on dit, et des revenus. Forcément, quand on arrête de croître, au bout d'un moment, il y a des gens qui perdent. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas envie que ce soit eux qui perdent. Ça, c'est un autre problème. Mais dans un premier temps, c'est comme ça qu'on aimerait le considérer. C'est-à-dire, les métiers de service à la personne, de la réparation, de l'artisanat. C'est pas très rentable, les gens vont pas gagner beaucoup d'argent. Alors une fois qu'on s'est dit ça, on se dit bon ben, on a peut-être une piste pour résoudre un peu le problème de l'emploi, peut-être un peu le problème de l'écologie, mais il y a un gros problème, c'est l'inégalité. C'est que là on a créé toute une frange de la population à qui on dit vous perdez. En plus vous êtes déjà plutôt les plus mal lotis. Alors on vous a trouvé peut-être un job, c'est vrai qu'une partie n'en a pas, mais quand même. Donc là vous êtes obligé de mettre en place une deuxième pompe. Redistributive. Donc il y a un problème de niveau de vie, effectivement, pour une grande partie de la population. Alors le pouvoir d'achat, de toute façon, quand il n'y a plus de croissance, il stagne. Ça c'est à peu près normal. Mais si vous baissez les salaires les plus bas, donc, comme j'ai dit, ça pose un problème pour le bas de l'échelle sociale. Donc là, ce qu'il faut, c'est tout simplement redistribuer du haut vers le bas de la pyramide. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça signifie, même si on pousse la logique un peu jusqu'au bout, presque découpler le revenu et le travail, du moins partiellement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si l'artisan gagne très très peu via sa production à lui et gagne beaucoup en transfert redistributif, on commence à arriver à ce que beaucoup décrivent comme le revenu universel pour tous, c'est-à-dire que finalement, le travail n'est pas forcément la source de revenus. Et de même, il y a des gens qui vont travailler très bien beaucoup, mais on va capter une grande partie de leurs revenus. Ça pose des problèmes philosophiques assez profonds sur la valeur du travail. C'est-à-dire que d'une certaine manière, confronté au chômage, on a envie que les gens travaillent. C'est quelque chose qu'on n'aimerait pas faire payer cher. En même temps, si vous dites aux gens qui ne sont pas payés pour travailler, la valeur inconsciente du travail diminue beaucoup. Donc, il y a une forme de paradoxe. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut ne pas rémunérer le travail et toujours en faire quelque chose de très valorisant? Et là, je pense que ça appelle des réflexions sociologiques, sociétales, assez qui dépassent largement le champ de mes réflexions et encore plus le champ de mon expertise, puisque mes réflexions vont souvent plus loin que mon expertise. Donc une fois qu'on a des pompes, je vais essayer d'aller vite pour conclure. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de bons tuyaux. C'est-à-dire que il y a toujours des secteurs qui croissent en productivité, et au fur et à mesure, il faut toujours reverser dans de nouveaux secteurs. Finalement, d'une certaine manière, une économie stagnante, qui ne croît pas, est une économie extrêmement dynamique. Et là, pour le coup, c'est pas si différent de ce qu'on vit. C'est-à-dire, il y a un côté destruction créatrice permanente. Donc, il faut se réinventer en permanence. Ça me semble pas choquant comme proposition de se dire qu'effectivement, dans une économie où on peut pas vraiment croître, mais où en même temps on s'améliore, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. On reste pas toute sa vie dans la même usine, forcément, puisque l'usine, de toute façon, elle s'est robotisée 4 fois entre-temps. C'est pas possible. Là encore, ça va dans le sens de mon présupposé implicite, qu'on est dans une économie de marché, et ça correspond assez bien à l'allure qu'ont les économies de marché aujourd'hui, c'est-à-dire des systèmes assez flexibles. Et c'est d'autant plus vrai que sans croissance, les entreprises meurent beaucoup. C'est-à-dire une entreprise a souvent besoin de croître pour survivre. Elles sont en environnement concurrentiel, il y en a une qui croit et l'autre qui... Si globalement ça ne croit pas, quand l'une gagne, l'autre perd. Et donc ça, s'il y a plus de morts, il faut qu'il y ait plus de renouvellement. Ça pose beaucoup de problèmes plus précis en termes de, justement, d'accompagnement de la fin des entreprises. La destruction créatrice, il faut gérer la destruction. Gérer la création, c'est plus facile. Mais gérer la destruction, là encore, c'est plus violent. Et donc, on va voir des entreprises mourir plus dans les secteurs à gain de productivité. C'est-à-dire qu'il y aura les très bons qui vont pouvoir rester. Ceux qui vont faire moins de gains que les autres vont mourir. Et ces gens-là, il faudra qu'ils aillent dans de nouveaux secteurs. Ce n'est pas les mêmes gens, ils ne font pas la même chose. C'est déjà un problème auquel on est confronté. C'est celui de l'adaptation permanente, des compétences, etc. mais qu'il faut bien envisager sous l'angle du travail, disons, peu qualifié, ou du moins pas hyper qualifié. Bon, après, je pense que si je continuais, je m'enfuirais dans des raisonnements encore plus ouverts et encore moins aboutis. C'était voilà quelques pistes pour vous dire comment en tout cas personnellement je suis parti des objectifs, donc la partie normative qui selon moi doivent en quelque sorte s'imposer à l'économie. On veut de l'emploi, on a des contraintes écologiques assez claires, au moins quelques-unes qu'on peut vraiment insérer dans l'économie. Pour les autres, c'est des formes de régulation un peu différentes. On n'a pas envie de trop d'inégalités, parce que sinon la société ne tient pas. Donc ça, ce sont les critères normatifs. Comment mécaniquement on fait ça? Après, bon, je pourrais continuer. Ça pose beaucoup de questions, en fait. Des questions sur la forme de capitalisme, parce que ça met quand même en cause la pérennité d'un modèle capitaliste. Non pas de l'économie de marché, mais d'un modèle capitaliste. Comment on fait quand on a des pompes avec autant de fluide qui circule et qu'on est en circuit ouvert, ça s'appelle la mondialisation. Comment vous faites que votre pompe ne fuit pas? Parce que quand vous forcez des gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas, et s'ils peuvent ne pas le faire en allant ailleurs, ils vont ailleurs en général. Et ensuite, ça pose des problèmes politiques et un peu plus philosophiques. Si on parle de pompes, des pompes, il y en a aujourd'hui. Les pompes sociales, elles sont gigantesques. Ce qu'on peut dire probablement, c'est qu'elles ne marchent pas très bien et qu'elles n'ont pas une légitimité et une efficacité suffisante. Donc si on veut une société où on recrée des pompes fortes pour assumer des objectifs, ça veut dire qu'il faut nettoyer celles qu'on a maintenant et le faire de manière assumée. Et ça aussi, c'est violent politiquement, parce que ça fait toujours des perdants et des gagnants. Comme je disais, plus philosophiquement parlant, c'est aussi dire, dans ce genre de transformation, qu'on est en train d'inverser le combat consommateur-producteur. C'est-à-dire que dans notre société, clairement, la production est une fonction réduite à sa portion congrue, à laquelle on n'attribue pas de valeur en soi. Elle n'a de valeur que parce que la consommation est agréable et plus abondante, plus confortable. Or, c'est le problème auquel on est confronté dans le chômage. Pourquoi ? On veut que les gens travaillent, ça veut dire qu'il y a une valeur positive à produire, au-delà même de ce qui est consommé, ce qui est un peu embêtant. Et ça, je pense que c'est un défaut très présent chez les économistes libéraux, et plus généralement dans l'économie académique. C'est qu'effectivement, même dans les équations, dans les modèles, ce qui compte, c'est la consommation, c'est le versant consommateur. Mais est-ce qu'ils se sont un jour posé la question de « mais pourquoi on n'aime pas le chômage ?» Parce que honnêtement, si la production c'était un tel enfer, si comme dans tous les modèles, parce que c'est écrit dans les modèles, le travail ça avait une valeur négative, mais on serait tous contents d'être au chômage. Et c'est pas le cas, donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose à dire sur produire, comment produire, pour quels objectifs produire, et pas seulement le versant consommateur. Et ça, ce sont des réflexions qui, je pense, peuvent nous embarquer très loin, et qui sont très intéressantes. Et enfin, et ça c'est aussi politiquement très problématique, si on fait des grosses pompes pour gérer la fin de la croissance, des pompes, ça veut quand même dire l'État, la collectivité, et ça veut dire plus d'État, ou en tout cas pas moins, plus de redistribution, et c'est vrai que l'État est déjà extrêmement présent. On ne peut pas nier le sentiment diffus et finalement assez légitime de ras-le-bol, bon, assez caricatural souvent, mais qui existe, de ras-le-bol fiscal, normatif. L'État est extrêmement présent. On a une vie qui est à la fois très individualisée, mais aussi très collectivisée. Donc est-ce qu'on est prêt à l'assumer? Et ça, c'est une question ouverte. Et je vous laisserai sur cette question ouverte. Et j'en aurai fini. Merci.